9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Situons-nous au sud de la Chine, dans le port de Hong Kong. En octobre 1872, une escadre de navires français est en train d'appareiller. Il y a là deux canonnières, une chaloupe à vapeur, une jonque chinoise qui sont armées de 24 canons. Il y a à bord 27 Français et 125 Asiatiques qui, pour l'occasion, ont été recrutés. Et à la tête de l'expédition, un explorateur. Alors comment le définir? Il est négociant en toile, un peu espion, marchand d'armes à 16 heures. Enfin, vous voyez le genre de personnage. Il a 43 ans et s'appelle Jean Dupuis. L'escadre longe les côtes chinoises vers le sud jusqu'au Tonkin. Tonkin qui, à l'époque, fait partie de l'empire d'Annam. Mais cet empire d'Annam est sous domination chinoise et depuis longtemps. L'expédition s'engage maintenant dans l'embouchure du fleuve Rouge et le but, c'est d'ouvrir une voie d'accès depuis le Tonkin jusqu'à cette région méridionale de la Chine qu'on appelle le Yunnan. Un autre explorateur de la marine française est déjà en train de sillonner la région du Yunnan, ça fait des mois. Lui a 33 ans, il est lieutenant de vaisseau et il s'appelle Francis Garnier. Voici le rapport qu'il avait rédigé quelques mois plus tôt à l'intention du ministre de la Marine et des Colonies, le vice-amiral Potuau. Voici ce qu'il dit au ministre. « La principale richesse de la province consiste en métaux. Il y a une quarantaine de mines de cuivre dans le Yunnan. À cette production, il faut ajouter celle de l'argent. Il n'existe qu'une mine d'étain. Les mines de plomb et de zinc sont plus nombreuses. Il y a enfin 14 mines de fer. » Bon, bref, quand on lit ça à Paris, on se frotte les mains, forcément. Autre raison de l'expédition de Dupuis, il va livrer des armes de la part de la France à la Chine pour l'aider à écraser la rébellion dans le Yunnan. Des armes à la Chine en échange d'une espèce de tolérance chinoise envers la présence française dans toute cette région. L'expédition ne pourrait être entreprise sans l'accord du ministre français et du gouverneur de la Cochinchine, l'amiral Dupré, qui est à Saïgon, le gouverneur de la Cochinchine. La France, en effet, a déjà établi là-bas un protectorat, une zone qui couvre donc tout le sud de ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam, avec aussi le Cambodge, le Laos, protectorat administré par des amiraux français qui ont un rêve, aller plus loin, coloniser aussi toute la partie centrale de cette région, la Nam, donc à l'est, si vous voulez, du pays, et puis le nord, bien sûr, qu'on appelle le Tonkin. Il dispose en métropole d'un certain nombre de relais économiques, politiques, militaires. On est exactement à l'époque où la France vient de perdre l'Alsace et la Moselle, hein. La conquête d'un empire colonial. Bien, on se dit que ça permettrait un petit peu de relever la tête.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
L'expédition de Dupuis remonte le fleuve Rouge assez prudemment. Hein. Il est bordé d'une jungle, de marais. Preuve que Saïgon et le gouvernement français sont bien derrière tout ça. Le vaisseau français croise le long des côtes, prêt à un soutien militaire si jamais c'était nécessaire. Tout ça est sous contrôle. Il faut dire que le Tonkin est un territoire périlleux puisque l'empereur d'Annam, il s'appelle Tuduk, ne voit pas d'un bon œil ces Français rentrer chez lui, disons les choses. Et puis, dans les montagnes, il y a des paysans rebelles, des contrebandiers, toutes sortes de pirates qui n'aiment pas qu'on vienne se mêler de leurs affaires. Un groupe se distingue par son nombre, les pavillons noirs. Ce sont d'anciens rebelles chinois qui ont été pourchassés par la Chine et qui se sont réfugiés là-bas dans les tréfonds du Tonkin. En revanche, les Français peuvent compter sur les 150 000 chrétiens qui sont installés dans la région, des missionnaires ou des convertis, et qui sont sous la houlette d'un évêque, Monseigneur Puginier. Dupuis va atteindre le Yunnan, donc en Chine. Il livre des armes et puis là, il redescend le fleuve jusqu'à Hanoï. Hanoï qui est la capitale du Tonkin, au bord du fleuve Rouge. Et la surprise, plutôt que de poursuivre son retour jusqu'à Hong Kong ou Saïgon, Dupuis s'amarre dans le port fluvial de Hanoï. Et on a bien l'impression qu'il ne veut pas bouger. Dupuis va écrire au gouverneur, là, à Dupré, hein, qui se trouve à Saïgon. Monsieur Dupuis est maître du Tonkin. À l'exception des troupes annamites, toute la population est pour lui. Le Tonkin pourrait être placé sous le protectorat effectif de la France. Une milice de 200 hommes y suffirait. Et l'amiral-gouverneur Dupré écrit de son côté à Paris. Notre établissement au Tonkin est une question de vie ou de mort pour l'avenir de notre domination en Cochinchine. Je suis prêt à assumer toute la responsabilité de l'expédition que je projette, à m'exposer à un désaveu. Je ne demande ni approbation ni renfort. Je vous demande de me laisser faire. » Le marchand Dupuis et le gouverneur Dupré sont donc en train d'organiser tous les deux tranquillement la colonisation du Tonkin. Et il va falloir pour ça une deuxième expédition. Réponse de Paris, elle arrive en septembre 1873, c'est non. Il faut d'abord laisser la France se reconstituer militairement. « Veuillez ajourner vos espérances, » dit le ministre. Et d'autant que l'empereur d'Annam, Toudouk, qui est de plus en plus méfiant, exige maintenant le départ immédiat de Dupuis qui est là avec sa flottille. Et pourtant, ni Dupuis, ni le gouverneur Dupré n'ont l'intention de céder. Ce qui est incroyable, c'est que contre l'avis du ministère parisien, encore une fois, on est en 1873, on est juste au lendemain de la grande guerre contre la Prusse, de la défaite terrible de Sedan, on est en train de reconstituer de bric et de broc ce qui va devenir la Troisième République. Bref, sans l'accord de Paris, ils vont mener tout ça de leur propre initiative, Dupuis et Dupré. Dans sa nouvelle histoire de l'Indochine française qui est parue l'année dernière chez Perrin, François Joyot écrit « Rien n'y fit. Dupré avait pris sa décision. Après la défaite de 1870, l'occupation de l'Alsace-Lorraine, le paiement d'une importante indemnité de guerre à l'Allemagne, ce n'était plus la marine qui poussait à l'occupation du Tonkin, loin de là, mais bien Dupré lui-même et son entourage saïgonnais. À Saïgon, on s'inquiétait beaucoup d'une possible action de l'Angleterre ou de l'Allemagne au Tonkin. Comme l'annexion des trois provinces occidentales de Cochinchine en 1867, décidée par l'amiral Charnay, l'expédition du Tonkin allait être décidée quasi exclusivement par l'amiral Dupré. C'est donc une nouvelle expédition, mais alors là, cette fois beaucoup plus belliqueuse, qui est en train de se préparer depuis Saïgon. Le chœur Ambrosian et l'orchestre Philharmonia sous la direction de John Lansbury interprétaient dans le jardin d'un temple chinois de Kettle Bay.
Vous écoutez Radio Classique.
Et le gouverneur de Saïgon, pour diriger sa nouvelle expédition, va faire le choix de ce lieutenant de vaisseau qui s'appelle Francis Garnier, qui connaît très bien la région, qui est tout à fait acquis au parti colonial. Les deux militaires vont eux-mêmes rédiger l'ordre de mission de Garnier. Le prétexte, c'est le règlement du litige diplomatique et commercial qui a été causé par la présence de Dupuis à Hanoï. Officiellement, Saïgon envoie des navires pour récupérer Dupuis, ça c'est ce qu'on raconte. Le deuxième objectif, moins explicite, c'est d'assurer l'ouverture du fleuve Rouge à la navigation, notamment aux escadres françaises. Donc, on prend tout le contrôle du delta, là. Et le véritable but, une fois sur place, c'est d'obtenir du Tonkin la reconnaissance de cette présence française. Vous représenterez aux autorités annamites qu'après le bruit fait dans le monde entier par le succès de la tentative de Dupuis, ce résultat est forcé et qu'on le leur imposera de force s'ils ne l'admettent pas de bon gré. Voilà, au moins, qui a le mérite d'une certaine clarté. Dupré et Garnier comptent sur la faiblesse des annamites qui n'ont pas les moyens militaires de s'opposer aux Français et sur la faiblesse des Chinois qui, n'ose pas intervenir face à une puissance comme la France à l'époque. Cette fois, c'est depuis le port de Saïgon que l'expédition prend donc la mer. Saïgon, on est au sud de la Cochinchine française. Hein. Dupré et Garnier ont conçu un plan en deux temps. D'abord, une première escadre pas très importante va naviguer jusqu'à Hanoï. Et puis, il y a la deuxième qui arrive en renfort. Et comme cette expédition n'est pas officielle, eh bien, on essaie de faire en sorte que ça n'ait pas l'air trop impressionnant comme ça à voir. La première escadre apparaît le 11 octobre 1873. Elle se compose seulement d'une canonnière, d'un navire à vapeur, d'une baleinière. À bord, vous avez Garnier avec deux détachements de 25 marins français qui vont faire escale à Tourane, donc à mi-chemin, vers le nord, en plein royaume annamite, donc. Et déjà, les autorités flairent un mauvais coup et tentent de retenir Garnier à Tourane. Seulement, l'équipé va reprendre quand même la mer, essuyer une tempête au passage. La canonnière, qui est trop lourde et qui surtout était mal équilibrée, va chavirer et elle va couler à pic. On n'en arrive pas moins à l'embouchure du fleuve Rouge. Et comme il n'y a pas assez de fond, eh bien, il va falloir abandonner un deuxième bateau. Et finalement, on n'atteindra Hanoï que le 5 novembre 73, c'est-à-dire quand même un mois après le départ. À Hanoï, Garnier prend langue avec les autorités locales, ce qu'on appelle les mandarins. Il expose les demandes françaises, liberté de circulation sur le fleuve, reconnaissance des provinces conquises, etc. Ce sont des espèces de palabres qui n'en finissent pas. Et pendant ce temps-là, la deuxième escadre est en train d'approcher deux canonnières, une compagnie complète de débarquement. Et une semaine plus tard, donc là, le 12 novembre, eh bien ça y est, les renforts sont à pied d'œuvre. Et au total, Garnier maintenant a 140 marins avec lui et 30 marsouins français. « Nous comptons nous établir définitivement », explique Garnier aux fameux mandarins, qui sont vraiment très réticents, évidemment, qui ne reconnaissent à Garnier aucune autorité, aucun pouvoir de négociation. Il le prie de reprendre gentiment le chemin de Saïgon et d'emporter du puits avec lui pendant qu'il y est. Le ministre des Affaires étrangères d'Annam envoie des missives à Dupré à Shanghai pour se plaindre de Garnier. Et pour toute réponse, Dupré enjoint le Tonkin de signer un traité. Il va jusqu'à menacer, hein, je cite le gouverneur. « Si, à mon grand regret, le gouvernement d'Annam reste sourd, je serai obligé de prendre des mesures pour assurer l'indépendance du Tonkin ou d'en compléter l'occupation pour administrer directement le pays. » Autant dire qu'on affronte directement les annamites, là, qui n'osent pas mettre Garnier aux arrêts. On a peur du côté indochinois, du côté annamite, on a peur de la réaction française, éventuellement. Pendant ce temps, à Hanoï, Garnier échafaude un plan. Il écrit à un ami cette lettre qui sera produite dans un rapport parlementaire 6 ans plus tard. Je cite la lettre. « Il n'y a qu'un coup d'éclat qui puisse contrebalancer l'effet des menées annamites et rétablir l'autorité et le prestige dont je suis arrivé entouré. Ce coup d'État, j'y suis décidé. » Le 20 novembre 73, c'est-à-dire une semaine après l'arrivée des renforts, 5 heures du matin, Garnier lance une action surprise avec 170 hommes. Et puis, disons-le aussi, la centaine de mercenaires que Dupuy avait réussi à regrouper. Garnier attaque la citadelle d'Hanoï. Et dans la ville, la troupe annamite a beau compter 7000 hommes, c'est l'effet de surprise et l'effet de gêne qui l'emporte. Et au bout d'une heure seulement, Garnier va s'emparer de la citadelle, il prend les armes, il a toute la ville, Hanoï est prise, 20 novembre 73, il y a donc 150 ans. Un mort côté français, un mercenaire asiatique que les soldats français ont confondu avec un annamite et qu'ils ont tué eux-mêmes. Hein, voilà. Et côté annamite, en revanche, 80 morts, 300 blessés, 2000 prisonniers. Garnier, avec ses canonnières, va se rendre maître du fleuve et le 3 décembre, il écrit à Dupré, alors là, il est triomphal. Hein. La province de Hanoï est en ce moment-ci complètement pacifiée, toute l'administration est entre nos mains et commence à fonctionner régulièrement. Et Dupré s'empresse de référer à Paris. C'était peut-être crier victoire un peu tôt parce que du côté des annamites et des Chinois, on a d'abord été sidérés, on ne savait pas quoi faire, mais bientôt, la résistance va s'organiser. Et l'empereur d'Annam, Tudouk, va s'entendre avec les rebelles qui peuplent le Tonkin, notamment les fameux pavillons noirs. Il va leur expliquer que Si Garnier prend possession du delta du fleuve Rouge, il les chassera, eux, de ce delta. Et c'est d'ailleurs ce que Garnier a déclaré. L'empereur propose donc à ses pirates une alliance et des fonds pour entrer en lutte armée tous ensemble contre les Français. Et un peu partout, les pavillons noirs vont passer à l'attaque, avec des combattants qui sont de plus en plus nombreux chaque jour. Et partout, à Hanoï, le long du fleuve, on les voit qui harcèlent les troupes françaises, pas nombreuses, vite débordées. Les munitions se mettent à manquer à ce moment-là. La petite expédition coloniale de Garnier est en train de virer au cauchemar. L'interlude de l'acte 5 du Prince de Kholmsky de Mikhail Glinka. L'orchestre symphonique d'État du RSS était sous la direction d'Evgeny Svetlanov.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
21 décembre 1873, au petit matin, un groupe de pavillons noirs s'approche de la citadelle d'Hanoï et attaque, et puis aussitôt se retire. Garnier, qui n'en peut plus, décide de les pourchasser avec une dizaine d'hommes seulement, sans mitrailleuses. Il les poursuit à travers des champs de bambous. Il sépare ses hommes en petits groupes pour mener une véritable battue et lui-même va gravir une pente abrupte. Il trébuche, il tombe en contrebas et là il se retrouve seul, encerclé par une vingtaine de combattants annamites. Immédiatement, il est percé littéralement de coups de lance et on va lui trancher la tête. Pour François Joyot, c'était la fin d'un officier intrépide, c'était aussi un coup d'arrêt à une politique quelque peu aventureuse. Par pavillon noir interposé, la France ne se heurtait pas seulement à l'Empire d'Annam, mais aussi à l'Empire de Chine. Vous avez bien compris comment ça se passe, hein. On utilise les pirates pour aider les Vietnamiens qui, eux-mêmes, ne font en vérité que les affaires de la Chine. Un officier français décapité au terme d'une expédition illégale, mal préparée, une prise de citadelle maladroite, une ville, un fleuve impossible à tenir. Bref, toute cette opération vire au fiasco. Et à Paris, le ministre de la Marine et des Colonies n'est pas content du tout. Il écrit au gouverneur Dupré, à Saïgon donc, « Hâter par tous les moyens la conclusion d'un traité qui aura pour résultat l'évacuation de la citadelle d'Hanoï, car je vous rappelle que le gouvernement exige de la manière la plus absolue qu'il ne soit pas question d'une occupation prolongée, encore moins définitive, d'une partie quelconque du Tonkin. » L'amiral Dupré, à Saïgon, comprend que le vent a tourné et il désavoue les actions de Dupuis et de Garnier qu'il avait lui-même encouragées. Il envoie un gradé plus diplomate à Hanoï pour négocier avec les fameux mandarins. Il s'appelle Paul Philastre, qui parle bien la langue annamite. Philastre ordonne l'expulsion de Dupuis sur le champ, l'évacuation de la citadelle et de tous les fortins occupés par l'armée française. Et tout ce monde rentre gentiment à Saïgon en abandonnant sur place les collaborateurs, les colons, les chrétiens qui avaient cru Garnier et qui se trouvent maintenant être les victimes collatérales de toute cette affaire. Ils sont traqués, massacrés, on va même incendier leur village.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
L'empereur annamite Toudouk et le ministre français ont évalué les faiblesses de leurs positions respectives et sur ces bases, on va quand même rédiger un traité. La France, je cite, reconnaît la souveraineté du roi et son indépendance par rapport à toute puissance étrangère. Toute puissance étrangère, y compris la Chine, qui jusqu'alors était très très présente dans la région. Et la France s'engage à fournir, je cite, « l'appui nécessaire pour maintenir l'ordre et le défendre contre toute attaque ». En clair, le royaume devient un protectorat français, ce qui, d'un seul coup, fait totalement passer au deuxième plan l'influence chinoise. Et en plus, l'empereur Toudouk reconnaît la souveraineté française, alors là, cette fois, pleine souveraineté sur les provinces qui avaient déjà été conquises, Cochinchine, Cambodge et Laos. Et il reconnaît le fleuve rouge ouvert à la circulation et au commerce, même si les pavillons noirs sévissent toujours. Dans les faits, cet avantage ne sera pas exploité par le gouvernement français conservateur, malgré le double jeu qui a été mené dans cette affaire. Et c'est un peu plus tard les Républicains qui, avec Jules Ferry, donc en 1879, vont relancer la colonisation de l'Indochine, alors cette fois par la Nam et le Tonkin. Et ce sera fait, ça, vous le savez, au nom de l'universalisme français.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Pierre Anquetin d'avoir célébré cet anniversaire et bonjour à Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck, nous étions au Vietnam avec cette évocation de Hanoï cet après-midi.
Ce qu'on appelait l'Indochine à l'époque.
L'Indochine effectivement. Et cet après-midi, vous allez nous parler de la mort de ce cher Molière.
Eh oui, c'est de saison, non ?
Oui, écoutez, on va suivre ça à 14h et vous retrouver avec grand plaisir demain matin. Demain matin, votre histoire se passera en 1693. Je n'en dis pas plus.